Bonjour à tous et bienvenue. Dans une demi-heure, nous parlerons du Rwanda. Vendredi dernier, Paul Kagame a été réélu à la tête de ce pays qu'il dirige depuis 23 ans. De nombreuses voix dénoncent l'absence de liberté d'expression pour l'opposition. Mais le pays est aussi souvent cité en exemple pour sa bonne santé économique ou bien pour son niveau de développement. Alors le Rwanda est-il un pays modèle? N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner votre avis. D'ici là, ce sont vos questions à la rédaction. Vous connaissez le principe. Si vous souhaitez des explications, des éclaircissements sur une information, vous nous appelez et nous faisons de notre mieux pour vous répondre. Bonjour Davy.
Bonjour Anne Conteneur, bonjour à l'équipe d'appel sur l'actualité, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de Brazzaville et vous avez des questions sur le Congo justement.
Oui. La dette publique du Congo-Brazzaville atteint 120% du produit intérieur brut. Au cours des négociations avec le FMI, les autorités congolaises ont caché une partie de cette dette. Mais quel impact cela peut-il avoir sur la suite des négociations pour parvenir à un accord sur un programme d'aide budgétaire?
Alors pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Florence Maurice, journaliste au Service Afrique. Florence, c'est vous qui avez révélé cette information. Un programme d'aide budgétaire est effectivement en discussion depuis des mois entre le Congo et le FMI. D'ailleurs, l'institution avait déjà regretté un certain manque de transparence. On va peut-être d'abord rappeler ce qui s'est passé. À quoi correspond cette dette que Brazzaville a cachée au FMI ?
Bonjour à tous. Alors le FMI a en fait cherché dans deux directions. Hein. D'abord la Chine, c'est le principal prêteur du Congo, et les deux pays ont signé au moment où les cours du pétrole étaient au plus haut ce qu'ils appellent un partenariat stratégique qui prévoyait que la Chine en fait finance une vaste série de chantiers d'infrastructures au Congo et touche en échange une partie des recettes du pétrole. L'ennui, c'est que tout ça s'est fait dans la plus grande opacité, opacité sur les montants prêtés, sur la liste exacte des projets financés. Tout ça relevait du secret d'État, on a confié une source proche du dossier. Résultat, il a fallu du temps pour que Brazzaville révèle peu à peu l'ampleur des dégâts, si on peut dire. Deuxième explication, on a découvert par le FMI de contrats, ou plutôt la confirmation, parce qu'en fait, vous l'avez dit, le FMI avait des soupçons, des contrats passés entre plusieurs négociants en pétrole, Trafigura, Glencore, Worldwide notamment, des accords de préfinancement donc entre ces négociants en pétrole et en pétrole et la Société nationale de pétrole, la SNPC, qui prévoyait des prêts accordés à l'État, enfin à cette société, en échange de futures livraisons de pétrole. Le problème, c'est que Brazzaville avait omis, on va dire, de parler de ces contrats au FMI. Or, la Société nationale de pétrole, dont les activités de négoce sont gérées par le fils du président congolais, Denis Christel Sassou Nguesso, eh bien, c'est l'une des principales sources du budget de l'État. Et surtout, ces contrats, les derniers en tout cas, étaient justement destinés à renflouer la dette, à lever du cash en quelque sorte pour faire face aux urgences, aux impayés, et notamment vis-à-vis des Chinois, raison pour laquelle le Congo n'en a pas vraiment fait la publicité, d'autant qu'à chaque fois, c'est le même pétrole en fait qui est promis à différents bailleurs, hein, aux Chinois, aux négociants, ce qui pose problème. Et c'est comme ça que le Congo, en voulant masquer sa dette ou renflouer une partie de sa dette finalement, n'a fait que l'aggraver.
Et alors, est-ce que ces révélations sur la dette peuvent compromettre ce fameux programme d'aide du Fonds monétaire international ?
Alors, le compromettre, sans doute pas. En fait, ça réduit considérablement la marge de manœuvre du Congo, hein, qui se serait bien passé de ce programme. Mais désormais, il apparaît que le Brazzaville n'a plus vraiment d'autre choix que le FMI pour se sortir de cette situation financière, même si donc ce sera reculant, parce que on a vu hein, comment Brazzaville, ces derniers temps, a tenté de trouver de l'argent ailleurs pour éviter les fourches caudines du Fonds monétaire international. Mais autant avec 77% du PIB de dette, Brazzaville pouvait encore discuter ou essayer de trouver de l'argent ailleurs sur certains marchés internationaux, mais avec une dette à 117% du PIB, le Congo est discrédité sur les marchés et aussi auprès de ses bailleurs, hein, même les Chinois, d'habitude assez consentants à prêter de l'argent à Brazzaville, ne sont pas d'accord aujourd'hui, d'après mes informations, pour réclamer la dette sans des garanties sérieuses. Et même eux seraient plutôt favorables à un plan du FMI parce qu'ils voient la possibilité de porter le Congo à plus d'orthodoxie budgétaire et à une meilleure gouvernance. Quant à la France, hein, certains au sein du régime congolais auraient encore rêvé récemment que Paris fasse un geste sous forme d'aide au développement, comme ça a été le cas par le passé. Mais cette fois-ci, il n'en est pas question. Hein. Paris exigent que tout ça passe par le FMI. Donc le rapport de force est vraiment défavorable à Brazzaville, car, et c'est la deuxième conséquence, dans ce contexte, le FMI risque aussi de poser des conditions drastiques de transparence en échange de prêts, parce que qui dit dette passée dit opacité, donc possible problème de gouvernance avec tous les soupçons que ça peut entraîner sur l'utilisation de l'argent du pétrole, et le FMI va faire en sorte que les mensonges, on va dire, de ces derniers mois ne puissent pas se reproduire. Donc, concrètement, aujourd'hui, où on en est, Denis Sassou Nguesso, visiblement, a donné un accord de principe pour un programme FMI. Mais ce qui reste à faire maintenant, c'est négocier les termes de ce contrat. C'est le travail d'une mission du FMI qui doit se rendre à Brazzaville fin août. Et ces discussions dans ce contexte vont être tendues. Car Brazzaville est au pied du mur. Mais le président, dit-on, est traumatisé par un précédent programme FMI qui avait été conclu en 86. Qui s'était soldé par des coupes budgétaires drastiques, une grosse contestation sociale, et qui, dans son souvenir, à l'époque, lui a peut-être coûté son poste quelques années plus tard. Et puis l'autre chose qui sera difficile, c'est qu'au-delà des mesures sociales, le FMI va aussi avoir des arguments pour réclamer au régime congolais certaines mesures impopulaires au sein du régime, comme par exemple la fin des exonérations fiscales pour toute une série d'entreprises qui sont aujourd'hui exonérées d'impôts et qui sont dirigées par des proches du pouvoir.
Et voilà une position nettement moins confortable pour le Congo. Davy, vous aviez une autre question ?
Oh oui, Anne. Quelles seront les conséquences de cette dette au niveau de la situation économique du pays déjà préoccupante ?
Et Florence Maurice, on sait effectivement maintenant que la dette est bien supérieure à ce que l'on pensait dans un pays qui va déjà mal sur le plan économique.
Oui, et ben en fait, les conséquences sont déjà là. Davy, qui vit à Brazzaville, doit déjà s'en rendre compte, parce que si une partie de la dette était cachée, ses conséquences étaient déjà bien réelles et se font sentir à Brazzaville. La seule conséquence, et on peut l'espérer pour les Congolais, c'est que dans ce contexte, Brazzaville va être contraint à une meilleure gestion de ses ressources. Mais encore une fois, il suffit de se promener dans le Congo pour voir que d'ores et déjà, l'argent ne circule plus dans le pays. Tout le monde le dit, hein, il suffit de voir la quantité de chantiers parfois monumentaux qui sont à l'arrêt. Ces chantiers, c'était une des locomotives de l'emploi dans le pays. Peut-être un exemple emblématique, c'est ce campus universitaire de Kintélé, dans le nord de Brazzaville. Des dizaines d'immenses bâtiments destinés à une nouvelle université qui finalement ne peut pas ouvrir faute de moyens. Et alors qu'au même moment, les étudiants de l'université historique de Brazzaville déplorent des problèmes dans le versement de leur bourse. Il y a aussi cette grève au CHU de Brazzaville pour protester là aussi contre des retards de salaire qui se multiplient en fait dans tous les domaines. Donc voilà, les conséquences, elles sont déjà là. Maintenant, on connaît l'ampleur monétaire chiffrée, on va dire, de la dette, mais les conséquences étaient bien là. Et le Congo arrive partiellement à trouver des sous pour limiter la contestation sociale, mais les caisses sont vraiment vides et on ne sait pas combien de temps ça va pouvoir encore durer comme ça.
Merci beaucoup Florence Maurice d'avoir répondu aux questions de notre auditeur et merci David d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne journée à Brazzaville. Et si vous aussi vous souhaitez poser des questions à la rédaction, n'hésitez pas, 33 9 693 693 70. C'est le numéro qu'a composé Ngerebaï. Bonjour.
Bonjour Anne.
Vous nous appelez de N'Djamena. Bonjour. Et vous avez des questions. Vous avez des questions sur l'événement du monde du football, l'arrivée de Neymar au PSG pour un montant faramineux. C'est officiel, mais samedi soir, le club parisien a fait sa rentrée en Ligue 1 sans sa nouvelle star. Vous avez donc une question sur ce fameux transfert. On vous écoute.
Évidemment, après des semaines de rumeurs, Neymar est officiellement le joueur du PSG avec une clause libératoire de 222 millions d'euros. C'est le plus gros transfert d'un joueur dans l'histoire de la Ligue 1. Alors, quel est l'apport d'un joueur comme Neymar en termes de niveau de jeu et d'expérience dans l'effectif parisien ?
Alors c'est Alexandre Sebon, journaliste au service des sports de RFI qui va vous répondre. Alexandre, qu'est-ce qu'on attend de Neymar maintenant au PSG ?
Eh bien tout d'abord je dirais une aura. Une aura qui avait par exemple Zlatan Ibrahimovic, qui n'a pas été remplacé exactement par Edinson Cavani l'an dernier. Poste pour poste, c'était le cas sur le terrain. Mais l'aura de Zlatan, ce qui faisait qu'il déstabilisait les adversaires, ne serait-ce qu'en étant sur le terrain, eh bien lui, Neymar, l'aura, cette aura, si je peux me permettre le jeu de mots. Effectivement, sur le jeu du PSG, évidemment, il va apporter un impact offensif très net. On a vu d'ailleurs ce week-end les difficultés encore qu'avait le PSG à se trouver dans les derniers gestes. Lui, Neymar, avec sa fluidité, avec sa technique, et il va réussir facilement à trouver et à s'intégrer surtout dans ce collectif et trouver Edinson Cavani et ses autres coéquipiers du Paris Saint-Germain. Évidemment, il apporte plus de solutions offensivement, il est capable aussi de marquer des buts, de centrer, de tirer des coups francs, il est aussi capable d'être rapide en compte, de mener les attaques rapidement, et puis il y a aussi ce petit facteur X, quoi, le truc qui est inexplicable, qui fait qu'un grand joueur est un grand joueur, vous pourrez pas l'expliquer, il sera là peut-être après 90 minutes de jeu, on l'aura pas vu du match, et puis là, il arrive et il marque, c'est la marque des grands joueurs, et c'est ce qu'il a prouvé, notamment au FC Barcelone.
Alors, Nguere Baye, je crois que vous aviez une autre question.
Oui, quel impact peut avoir la venue sur le jeu comme Julian Draxler, passeur sur ce type de jeu, même poste que lui?
Alors, la ligne n'était pas très bonne pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu, donc vous vous interrogez sur les conséquences de cette arrivée sur des joueurs qui pourraient avoir à peu près le même poste, Alexandre Seban.
Alors, les deux cas sont un peu différents. Notre auditeur citait Julian Draxler et Javier Pastore. Alors, pour Julian Draxler, effectivement, bizarrement, il a été très bon la saison dernière depuis qu'il est arrivé au PSG au mois de janvier dernier. Et il s'est dit ce week-end que son agent était à Barcelone pour lui aussi peut-être négocier un transfert du côté du Barça. Alors, on l'a pas vu ce week-end, Draxler. Effectivement, il est possible qu'il s'en aille du Paris Saint-Germain après seulement quelques mois. Pour Pastore, c'est un peu différent. C'est la première grande star, Pastore, recrutée par le Paris Saint-Germain il y a quelques années. Récemment, on l'a vu offrir le numéro qu'il portait dans le dos la saison dernière, à savoir le numéro 10 à Neymar en guise de cadeau de bienvenue. Il semble que, voilà, il est plus ou moins négocié son avenir au Paris Saint-Germain. Il devrait, a priori, rester. Tout est possible maintenant en football. Il devrait rester au Paris Saint-Germain. Après, sur le terrain, on a vu ce week-end que Pastore était associé à la ligne d'attaque, le trio offensif aux côtés de Cavani et Angel Di Maria. Il est possible que lui redescende peut-être d'un cran, à moins que ce soit Di Maria qui redescende d'un cran au milieu de terrain pour prendre la place de quelqu'un d'autre, du coup, forcément, et afin de faire la place à Neymar sur le côté gauche de l'attaque.
Merci beaucoup, Alexandre Seban, d'être venu répondre aux questions de Nguere Baye. Très belle journée à tous les deux. Dans 20 minutes environ, ce sera le débat d'appel sur l'actualité. Nous parlerons du Rwanda à l'occasion de la présidentielle et de la réélection de Paul Kagame. Nous avons envie de vous entendre. Le Rwanda est-il un pays modèle ou non? Vous êtes très nombreux à nous écrire sur Facebook. Mohamed Saliou, par exemple, nous dit « Paul Kagame, cet homme qui a pu stabiliser son pays sorti d'un génocide unique au monde de plus d'un million de morts, a su relancer l'économie de son pays et faire du Rwanda une référence en Afrique. Et comme toute réussite, cette réussite a un prix. Paul Kagame incarne le respect strict des institutions et d'un homme d'État fort. Il mérite notre soutien. » Dites-nous si vous êtes d'accord et ce que vous pensez du Rwanda aujourd'hui. Nous attendons vos appels. Le débat commence juste après le prochain journal. D'ici là, une dernière question. Bonjour Arsène.
Bonjour Anne. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, vous aviez une question concernant le Brésil.
Absolument. Le président brésilien Michel Temer vient d'échapper à une mise en accusation à un procès pour corruption passive, et ce grâce au vote des députés de la Chambre des représentants. J'aimerais savoir comment se fait-il que les députés aient voté pour l'abandon, je dirais, des poursuites, sachant que 80% de la population était favorable à cette mise en accusation.
Arsène, pour vous répondre, on accueille tout de suite Elcio Ramalho du service brésilien de RFI. Alors, c'est vrai que ça paraît assez étonnant de voir Michel Temer échapper à un procès qui attend 4 Brésiliens sur 5.
Exactement. Bonjour Anne, bonjour Arsène. Justement, pour échapper à l'ouverture de ce procès, Temer n'a pas hésité à utiliser une pratique bien connue à Brasilia pour convaincre les parlementaires l'utilisation des fonds publics par le biais des promesses de faveur, des blocages d'amendements, des crédits pour les députés et les projets dans les FF électoraux. Temer et ses alliés ont manœuvré justement pour convaincre surtout les députés indécis ou des partis qui ne font pas partie de la base de soutien au Congrès. Donc des dizaines de députés, ce qu'on dit au Brésil des bas clergés, ont même été conviés à un dîner au palais présidentiel à Brasilia la veille de la votation. L'opposition l'opposition, bien évidemment, a dénoncé cette pratique, mais n'a pas réussi justement à convaincre les députés. Il n'a pas empêché le gouvernement Temer de faire tomber en fait le président. Il faut rappeler que Michel Temer a présidé à 3 reprises la Chambre des députés, donc il connaît très bien le fonctionnement des parlements. Et Temer a aussi compté sur cette votation sur plusieurs de ses ministres élus députés, donc ils se sont mis à l'écart de leurs fonctions pour la journée du vote. Donc 11 ministres ont quitté leur poste provisoirement pour retourner à la Chambre des députés pour soutenir le président et ont repris leurs fonctions le lendemain. Donc les ministres de la Santé, donc les plus gros budgets du gouvernement, tout cela sur fond d'une apathie générale des Brésiliens, Anne.
Oui, donc le président peut encore mobiliser certains leviers, en tout cas ceux qui sont nécessaires pour lui. Arsène, vous aviez une autre question ?
Absolument, non mais... En ce moment, quelles pourraient être les répercussions, je dirais, de ces pratiques-là sur l'économie brésilienne, sachant que la bourse de São Paulo avait clôturé en hausse pour la première fois, je dirais, juste au début, avant l'ouverture de cette affaire.
Oui, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Dans le discours qui avait suivi le vote à l'Assemblée, Michel Temer a parlé justement de la nécessité des réformes. Le Brésil vit en ce moment la pire crise de son histoire, mais ces fameuses réformes voulues par le président sont très impopulaires dans le pays. Est-ce que la décision des députés peut jouer sur sa politique économique?
Oui, justement, les députés ont voté, ont justifié leur vote par les besoins de stabilisation du pays. Donc, ça fait 2 ans, en fait, que le Brésil fait face à une grave récession économique. Donc, ce gouvernement a entamé une série de réformes pour essayer de redresser l'économie du Brésil. Donc, ce gouvernement a déjà approuvé la réforme du marché du travail, très contestée, et va s'attaquer donc à partir de ces votes, à partir de ces faits verts du Parlement, à d'autres réformes aussi jugées indispensables pour la société, pour le chef d'entreprise, pour essayer justement de redresser les pays. Donc la réforme la plus compliquée, c'est la réforme des retraites et des pensions, comme on dit au Brésil. Donc ce sera une réforme très difficile, mais une réforme qui on considère essentielle pour le redressement de l'économie. Il y aura aussi une autre réforme importante, c'est la réforme fiscale. Au Brésil, réclamé aussi de longue date par les chefs d'entreprise, par les milieux économiques. Donc, tout cela a été justifié pour donner cette opportunité pour Michel Temer. Sinon, le Brésil allait encore continuer dans une grave crise politique. La question pour les Brésiliens, c'était, si Temer n'est pas là, quelle est la solution? La solution serait les présidents de la Chambre des députés assumés pendant 1 mois et après convoquer les élections indirectes. Donc, ce serait aggraver la crise politique au Brésil. Pour cela, on peut considérer que les Brésiliens étaient en quelque sorte résignés à voir Michel Temer aller jusqu'à la fin de son mandat, décembre 2018. Mais il faut juste clarifier que malgré cette victoire politique, pour l'instant, cette affaire est classée, mais à la fin de son mandat, en décembre 2018, la justice pourra demander donc l'ouverture du procès contre Michel Temer. Et le procureur général de la République a dit qu'il y a d'autres éléments à demander de nouveau un procès contre Temer, par exemple l'entrave à la justice. Donc, pour l'instant, Michel Temer est à l'abri, mais il y a encore... Il pourra avoir encore des ennuis pendant son mandat.
Voilà, oui, pour l'instant, c'est plus un sursis que la fin de l'affaire. Merci beaucoup, Elcio Ramalho. Et merci, Arsène, de nous avoir appelés. Vous restez avec nous. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité africaine, puis notre débat. Nous parlerons du Rwanda, pays souvent cité en exemple sur le plan économique, mais critiqué pour la gestion des droits de l'homme. Paul Kagame, au pouvoir depuis 23 ans, vient tout juste d'être réélu pour 7 années supplémentaires. L'opposition politique est quasiment inexistante ou en exil. Qu'en pensez-vous? Le Rwanda est-il un exemple à suivre? Je vous rappelle le numéro pour participer, 33 9 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader.
Bonjour.